Je m'appelle Noémie, j'ai 16 ans et je suis en première année de gymnase. J'aime bien dessiner, j'aime lire et écrire, et je fais aussi de la flûte traversière. Du coup, je souffre d'anorexie mentale. Pour moi, en tout cas, ça s'est manifesté par des restrictions importantes, par énormément de contrôle sur la nourriture, et toujours dans cette optique de perte de poids et d'aller vers un idéal de maigreur qui était maladif. Au tout début, c'était simplement je voulais perdre quelques kilos, et après, ça s'est dégradé en spirale infernale. Je me suis fait emporter par justement l'addiction de l'endorphine et la satisfaction de voir que mon régime marchait. Finalement, après, je me suis fait aussi emporter par tous ces stigmas que je voyais sur internet et je me disais finalement, puisque je perds, pourquoi m'arrêter et autant arriver à ce stade-là, parce que je les trouvais belles, les mannequins maigres, mais je sais qu'elles sont pas heureuses. À 14 ans, j'ai eu mes premières pensées maladives. C'était surtout de l'hyperactivité. J'en faisais beaucoup en cachette. J'allais marcher. Et après, mes pensées de restriction, elles ont commencé à l'âge de 15 ans, quand je me suis pesée pour la première fois et où je me suis dit, faut que je reprenne le contrôle et qu'il faut que je fasse quelque chose sur l'alimentation parce que le sport ne marchait pas ou pas comme je le voulais. Du coup, j'ai commencé à faire des restrictions à l'âge de 15 ans. C'était pas vraiment des remarques, c'était plutôt, c'est comme si je m'étais regardée dans le miroir et j'avais un corps de fillette, sans forme, sans rien, banal, une enfant quoi, et que plus tard je me regardais dans le miroir de nouveau et là, il y avait les formes de femmes qui commençaient à arriver, les hanches, les cuisses. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à accepter ces changements sur mon corps. Perte de contrôle aussi, de nouveau. De voir mon corps changer, de pas le maîtriser, pas accepter ça. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé justement à faire du sport. Après, c'est sur la pesée que ça s'est vraiment concrétisé. L'image corporelle, elle est venue après, parce que l'addiction du chiffre était devenue plus forte que celle corporelle. C'est vrai que le fait de devenir une femme, ça implique plein de choses. Déjà, le regard des gens, il change sur mon physique, parce que quand t'es une enfant, en principe, on t'observe comme une enfant, donc on t'observe juste voir si tu t'es fait mal, si tu rigoles ou si tu pleures. Et quand t'es une femme, il y a le désir, je sais que tout le monde va pas te regarder comme si ils avaient envie de te sauter dessus, mais le regard change quand même, et il y a aussi le fait qu'étant ado, tout le monde change, du coup on aime bien observer les autres aussi, voir comment ils évoluent et il y a ce regard, cette pression. Je pense que ça s'est aussi ajouté aussi sur ça. Ça a d'abord commencé donc avec seulement de l'hyperactivité, mais comme je voyais pas les résultats, je me suis pesée et à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose sur l'alimentation en soi et c'est allé vraiment très très rapidement. En 2 mois, j'ai énormément perdu et j'ai un peu un blackout. Tellement c'est allé vite, j'ai que des souvenirs les plus marquants parce que mon cerveau il était juste pas assez renutri pour se souvenir de tout. Et ça s'est vraiment passé très 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 vite. C'est plutôt dans la guérison où il y a eu des rechutes et des pics un peu. En global, c'était dans un laps de temps très court. Je pense que c'était 3 jours avant ma première hospitalisation au CHUV. C'était un entretien avec une psy et une diète. Il y avait mes 2 parents et du coup, comme je le disais, moi j'étais simplement plus là. J'étais ailleurs dans mon trip de calcul et tout. Je me souviens que mes parents, surtout mon père, je l'ai vu pleurer que rarement. C'était quand le père de ma mère est mort, donc son beau-père est mort. Et là, il a explosé en pleurs. Ça m'a fait un choc. Voir mon père pleurer, c'est vraiment rarissime. Qu'il pleure pour moi parce qu'il s'inquiétait de moi, de mon état. Ça m'a fait bizarre. J'en reviens toujours pas maintenant de me dire que j'ai réussi. C'est pas une réussite, mais que tellement ma santé était dégradée que ça inquiétait mes parents au point de les faire pleurer, d'engueuler la psy pour dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour me faire hospitaliser. C'est vrai que ça me marquait, surtout qu'à ce moment-là, j'étais tellement pas là, tellement fatiguée que j'ai juste pas réalisé en fait. J'étais là, mes parents ils pleurent, ok, mais vous inquiétez pas, ça va aller, je vais bien quoi, moi je peux aller courir. Et c'est cet état de déni aussi qui me désole parce qu'à ce moment-là j'avais juste envie de les prendre dans mes bras et me dire que oui, je voulais me faire soigner et oui, je savais que j'étais malade, mais à ce moment-là je le savais pas. Comme ça allait très vite, je pense que mes amis ils ont pas remarqué, ils ont juste vu que à la cantine je mangeais plus rien. Ils commençaient un peu à s'inquiéter, mais je pense qu'ils me connaissaient pas. J'ai vraiment une amie proche et cette amie-là elle m'a vu évoluer, mais elle était, on était en dernière année d'école obligatoire, du coup elle était très occupée sur ses examens, donc elle s'est pas vraiment préoccupée de ma santé, surtout que je pense qu'elle se disait que c'était un peu factice, c'était pas aussi grave qu'elle le pensait. Et du coup il y avait juste cette inquiétude de pas me voir manger les midis à la cantine, mais sans plus. Sinon, ma famille, bah, justement, ça a amené à plusieurs conflits avec mes parents. Donc, c'était compliqué, surtout sur la faim, parce qu'on leur avait dit, bah, essayez de faire manger votre fille. Sauf que moi, je voulais pas manger. Du coup, bah, ça mettait des conflits. Enfin, mes parents, ils étaient désespérés. Je me souviens, ma mère, elle m'avait coupé une pomme. Elle avait fait une présentation toute belle et elle m'avait planté l'assiette sous les yeux. Je ne pouvais pas. Et c'était monté en crise et tout. On avait fini aux urgences. Tout ça pour une petite collation que ma mère avait tout bien préparée. Du coup, je pense qu'il y avait énormément d'inquiétude, bah ça revient aussi au fait de les avoir fait pleurer et d'impuissance à ce niveau-là, et du coup de ma part un déni total de oui tout va bien, et mes parents qui voyaient que non tout allait pas bien, qu'ils étaient incapables de faire changer ma mentalité. Donc je pense que ça a amené pas mal de conflits et de crises à ce niveau-là, niveau familial. En fait je m'en suis pas rendu compte, mais c'est mes parents qui m'ont dit après coup, quand j'avais un peu retrouvé la raison, que j'étais très dictatorielle sur tout ce qui touchait à la nourriture. Enfin il fallait manger à une certaine heure, et si tout le monde était pas à table à 7h, bah je pétais un câble. Ou alors le simple fait que des fois, bah voilà, je voulais manger ma soupe et après ma mère elle me disait qu'il fallait manger autre chose et je disais non, je veux manger que de la soupe. Et du coup, bah là ça montait dans les tours, du coup ils subissaient un peu mes excès de colère, mes crises, enfin dans le sens que je criais, je hurlais que je voulais pas manger, j'allais m'enfermer dans ma chambre, je tapais. Du coup je pense que moi je m'en rendais pas compte, j'étais tellement encore une fois, bah voilà, dans mes calculs, dans mes trucs, je m'en rendais pas compte, mais je pense que je les ai fait souffrir à ce niveau-là. Déjà de voir aussi mes parents en panique et totalement obsédés par moi, je pense qu'ils se sont sentis peut-être un peu seuls, perdus aussi je pense. Après mes hospitalisations, il y a eu de nouveau des moments de crise, parce que après ma première hospitalisation, donc au CHUV, et ensuite j'ai été transférée à Saint-Loup, ils nous ont dit que c'était mes parents qui devaient prendre les rênes de la nourriture, de bah, voir si je prenais bien mes collations, voir les quantités que j'avais dans mon assiette, si je les finissais. J'étais vraiment encore pas dans une optique de guérison, du coup j'ai rechuté juste après ma première hospit. Ça créait de nouveau des crises, parce que bah, je voulais pas, enfin je cachais mes collations pour faire en sorte de pas les manger. Et puis mes parents le voyaient, enfin ça créait vraiment des tensions. J'allais marcher alors que ma mère elle me disait qu'il fallait que je reste à la maison parce que bah j'avais pas assez mangé et que je voulais pas. Du coup enfin ça a remonté dans les tours, et aussi compliqué de nouveau pour mes frères et sœurs. Je sais que ma sœur elle s'était beaucoup plus absentée de la maison, elle était un peu en échec scolaire début d'année. Une psy a peut-être fait le lien avec mon comportement, je pense que ça s'est dégradé, mais depuis ça va beaucoup mieux. Après, on a réussi à trouver un terrain d'entente aussi entre mes frères et sœurs et moi. Mes parents, ils ont un peu levé le pied sur l'alimentation. Et je pense que ça a aussi beaucoup calmé les relations. Que ça soit moi aussi qui maîtrise un peu et qui ait le contrôle, pas tout le contrôle, mais une partie du contrôle sur l'alimentation, je pense que ça a beaucoup aidé. Du coup, c'était une année charnière parce que, bah, comme je passais de la 11e à la première année de gymnase, tous mes camarades de 11e, enfin, ils étaient plus dans ma classe. Donc, c'était une nouvelle classe pour un nouveau départ. Et je me suis recréé des relations en dehors de ma chute de la maladie. Mais par contre, ces relations, elles étaient quand même bâties sur une partie malade de moi, parce que j'avais encore plein de comportements. Et bah, j'étais quand même 2 jours et demi par semaine au gymnase. Et surtout que c'était pas du tout un but scolaire. Enfin, j'étais juste là pour être avec les gens. Et donc, bah, j'avais l'occasion de beaucoup parler. Je suis assez ouverte sur le fait de parler de ma maladie. Du coup, elles étaient énormément au courant. Puis elles m'ont beaucoup soutenue, mais avec beaucoup d'inconnus aussi. Elles connaissaient pas du tout cette maladie. Elles me soutenaient du genre, tu vas y arriver. Ou alors, c'est pas grave si t'es hospitalisée encore une fois. Je crois en toi. Des choses un peu bateau comme ça, mais qui m'ont quand même beaucoup aidée. J'ai été prise en charge assez rapidement, justement, parce que bah, ma mère, elle travaille dans la santé. Elle a pu faire bouger les choses. J'étais hospitalisée en urgence au CHUV pendant 1 mois. Et j'étais surtout renourrie par la sonde. Et ensuite j'ai été transférée à Saint-Loup et j'y suis restée 2 mois et demi. J'ai pu reprendre du poids mais pas travailler sur le côté psychique. Du coup j'ai rechuté juste après, jusqu'à une autre hospitalisation en janvier qui a duré 1 mois, de janvier à février. Entre ces 2 hospitalisations à Saint-Loup, il y a eu plusieurs autres hospitalisations à Nantes, 2, de quelques semaines, enfin de quelques jours et une semaine, parce que à cause justement de ma rechute et des conflits avec mes parents, j'ai eu pas mal de pensées noires. J'ai été hospitalisée dans un hôpital psy. Maintenant, du coup, je suis hospitalisée à Belmont depuis 3 mois et demi. C'est vrai qu'au départ, honnêtement, je voulais juste rester 1 mois. Je me suis dit, oui, ça va être plié et tout. Finalement, je reste plus longtemps. C'est pas plus mal parce que c'est vraiment un endroit qui m'aide beaucoup. Étant donné que j'étais pas un poids, stade critique, j'ai pu vraiment travailler sur le côté psychique qui me posait vraiment problème, avancer sur toutes les pensées permissives de la maladie qui restaient et qui faisaient qu'on pouvait pas dire que j'étais totalement guérie. qui mettait des conflits quand même dans ma famille, parce que s'il y a toujours la maladie, il y a toujours quelques petits conflits. Je dirais qu'à ce niveau-là, ça s'est énormément apaisé, même pour moi-même. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça s'est fait sur la durée, de me rendre compte que j'avais des comportements vraiment étranges, surtout parce que me renvoyaient mes proches, enfin me disaient « mais arrête de faire ça, enfin tu te rends compte que tu fais ça, mais c'est débile ». Enfin bref, plein de choses un peu comme ça, surtout de mes frères et sœurs, parce que mes parents, j'avoue que je les écoutais pas vraiment, mais mes frères et sœurs, ça m'a vraiment fait du mal quand ils me disaient que j'étais bizarre et que je faisais des choses bizarres, que c'était pas bien ce que je faisais. Ça m'a fait un peu réagir et j'avais beaucoup de temps pour moi aussi, du coup beaucoup de temps pour réfléchir, et je pense que ça s'est un peu construit, donc il y a pas de moment précis. Je pense que ça s'est fait durant le fil de l'année passée, et je pense que c'est construit petit à petit. Par exemple, refuser de manger quelque chose. Enfin, ma mère avait cuisiné avec des matières grasses, que je pétais un câble ou que je me mettais à pleurer devant une part de tarte ou des aliments compliqués, que je disais non. Quand on me disait on va au resto, j'angoissais à mort et je me mettais pareil à pleurer devant le serveur dès qu'il apportait mon plat parce que c'était pas comme je l'attendais, ou il y avait trop, ou enfin, je faisais des crises de panique pour tout et rien. Quand j'allais marcher et puis mes frères et sœurs rendais compte, mais j'allais pas marcher pour le plaisir, en fait je devais aller marcher, peu importe ce que les médecins me disaient, plein de comportements comme ça. Je pense que je l'ai eu à Saint-Loup lors de ma deuxième hospitalisation en février, du coup. C'était vraiment compliqué pour moi. Enfin, à Saint-Loup, il n'y a rien, il n'y a pas de groupe, donc j'avais énormément de temps pour moi et pour penser et réfléchir. Je me suis rendu compte en regardant les autres filles et qui la plupart étaient déjà venues, en fait, c'était pas leur première hospite. Un soir, dans mon lit, je me suis juste dit, mais attends, si je laisse traîner cette maladie encore longtemps, je vais finir comme elle, à revenir tous les ans, faire une hospitalisation ou même tous les mois. Et je me suis dit que c'était pas la vie que je voulais avoir, et que moi j'étais pas comme elle, je voulais pas suivre cette maladie. Il fallait que je retrouve la vraie moi qui n'était pas cette maladie avec toutes ces restrictions, et avant j'étais une autre personne, et qu'il fallait que je retrouve un peu cette partie d'avant. Et ouais, c'était compliqué à certains moments. Je pense des différents paliers qu'il faut franchir. Je l'ai fait très doucement pour ma part. Je pense que ça a aussi pas mal aidé parce que j'avais le temps de digérer, sans mauvais jeu de mots, les changements. Et c'est vrai que les premiers paliers, c'est souvent les plus compliqués parce que bah faut accepter déjà, faire confiance, je dirais, en les médecins, en le corps médical. Le poids où je suis, il est pas bien. Et sortir du déni. Après, une fois ce stade de déni passé, graver petit à petit les échelons. Honnêtement, je le vis comme une ascension de montagne avec des bases. J'ai pu des fois me reposer aux bases, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée pour me dire que bah, je voulais vraiment monter jusqu'au sommet et pas redescendre la montagne et abandonner. Honnêtement, je me suis toujours imaginée dans un petit studio à Paris, mais je me rends compte que plus le temps passe, plus je me dis que c'est galère quand même, Paris comme ville. Du coup, je sais pas, mais j'aimerais déjà finir ma scolarité du gymnase, surtout que j'ai pris quelques années de retard, donc ça devient de plus en plus compliqué pour moi d'accepter de la finir, mais je veux quand même le faire parce que j'en ai envie, et j'aimerais faire des études aussi, je voulais travailler dans les sciences criminelles, après avoir. Ils imaginent vraiment la personne, surtout quand on dit anorexique, ils pensent que c'est que sur le physique, et que du coup, il faut que la personne soit obligatoirement maigre, à qu'on envoie ses os par exemple, ou qu'elle réponde à certains critères typiques de l'anorexique physique. Du coup, bah ça se voyait pas forcément sur moi. Les gens me disaient « Ah bah t'as l'air en forme », ou alors « Ah ça a l'air d'aller mieux ». Non, pas vraiment. Du coup, c'est surtout sur ça, ou alors... beaucoup d'a priori, quand je disais que bah, je souffrais d'une dépression, de me voir souriante, les gens me disaient « t'as pas l'air dépressive en tout cas ». Il y a plein de, ouais, de stigmas comme ça, ou même quand je finissais une assiette, les gens me disaient « ah bah ça a l'air d'aller », comme s'il fallait ne rien manger pour prouver qu'on était anorexique. J'espère que dans le futur, plus de gens pourront réellement parler des troubles du comportement alimentaire qui se trouvent la plupart dans la tête, qui découlent après sur le physique, mais qui sont en premier dans la tête, comme une addiction. Et je pense que les médiatiser de plus en plus, mais les médiatiser avec des personnes qui en ont vécu, je pense que c'est plus juste qu'avec des scientifiques qui racontent juste ce que c'est les troubles, parce qu'en soi, je pense qu'il y a plein de personnes justement qui savent ce que c'est, mais qui savent pas réellement que quand on les a vécus, ils peuvent perdurer dans le temps, même sans avoir de dégâts physiques par la suite. Ne pas avoir honte de dire qu'il en souffre, parce que je pense qu'il y a plus de personnes qu'on ne le pense qui souffrent de TCA, mais qui malheureusement subissent justement les clichés, la pression de la société et la honte aussi, parce que c'est encore quelque chose de très tabou. Peu de personnes osent en parler, et logiquement on n'ose pas être l'exception qui va parler de ça. Donc j'irais d'oser en parler, et j'ai découvert ici à Belmont aussi des groupes de parole justement qui permettent comme pour les alcooliques ou les narcotiques, des groupes de parole qui parlent des TCA, et même s'il y a des connaissances aussi qui supportent, enfin, une sœur, un frère, une mère, une amie qui a déjà vécu un TCA et qui peut nous expliquer aussi et nous conduire vers des lieux sécurisés ou qui axent à la guérison. Je dirais que ce que j'ai appris durant ma guérison et que je continuerai de cultiver, c'est que le bonheur n'est fait que de choses imparfaites et que la perfection n'existe pas. J'ai toujours, enfin, justement, dans cette quête de la maigreur, c'était une sorte d'idéal de perfection. Le bonheur n'y était pas. Au final, tout être humain est imparfait et le bonheur aussi, parce que bah, la perfection n'existe pas. Donc, arrêtons de chercher la perfection partout et satisfaisons-nous de ce qu'on a et de ce qu'on est.